voix nue. Cette semaine, Élise Gruot rencontre Philippe Hersant. Ce soir, l'expérience de Clairvaux. Philippe Hersant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir pour ce dernier entretien chez vous. Hier soir, nous sommes entrés dans le concret de la création musicale. Vous nous avez fait part de la façon dont la musique s'invente et dont elle devient réalité.
Pour vous, en tout cas. Voilà une piste.
Philippe Hersant, en 2012, vous avez été invité par Anne-Marie Salé, qui a créé le festival Ombre et Lumière dans l'abbaye de Clairvaux, dans l'Aube. Donc cette ancienne abbaye fondée par Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, qui était à l'abandon, enfin qui n'était en tout cas pas utilisée, et dans lequel elle a créé ce festival de musique. Et puisque cette abbaye a pour particularité de partager l'espace avec aussi la centrale de Clairvaux, où aujourd'hui encore des hommes purgent des longues peines, elle a petit à petit associé la dimension de l'univers carcéral à son festival. Et c'est ainsi que vous avez été amené à intervenir vous-même. Alors, racontez-nous un peu cette expérience de Clairvaux, comment ça a commencé, et puis petit à petit, vous allez nous raconter les étapes de cette expérience humaine.
Alors, c'est une expérience tout à fait inattendue, qui m'a été proposée, que je n'avais pas pensé spontanément. Anne-Marie donc m'a appelé, je la connaissais pas, elle m'a fait découvrir un film qui avait été tourné par Julien Salé, son fils, et Thierry Machuel, qui était le premier compositeur invité par Anne-Marie Salé, et c'est lui qui a eu l'idée de recueillir la parole des prisonniers. Donc Anne-Marie et lui ont installé des ateliers d'écriture, et le principe, moi quand je suis arrivé c'était déjà assez rodé, le principe c'était donc d'établir ces ateliers d'écriture, que les détenus écrivent des poèmes, et que le compositeur en résidence, entre guillemets, au festival, écrive de la musique sur ses textes, en rencontrant lui aussi les détenus. Donc c'est ce que j'ai fait après, à partir de 2012, grâce à Anne-Marie et à un chef de chœur qui était invité, qui s'appelle Mathieu Romano, l'ensemble Aïdes, qui est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé et que j'aime beaucoup. Donc tous les deux s'étaient mis d'accord pour me demander de prendre la suite de Thierry Machuel. Voilà comment ça s'est fait. Et j'ai accepté avec, comme beaucoup de choses dans ma vie finalement, les choses importantes dans ma vie, je les ai acceptées, mais avec une énorme appréhension. J'avais, je dois dire, assez peur d'aller dans cet univers de la prison. On n'a pas très envie de se confronter à l'univers carcéral. Et donc je me souviens de la nuit précédant mon arrivée à Clairvaux, une vraie, réelle appréhension, une espèce de phobie même, la claustrophobie, quoi, tout simplement, qui risque de vous prendre quand vous vous retrouvez dans ce lieu. Et en fait, ça a été une expérience vraiment, vraiment extraordinaire. Je comptais n'écrire qu'une œuvre, participer donc à ce festival qu'un an, et en fait, je suis resté 5 ans. Les choses sont faites que je me suis finalement vraiment pris au jeu et que j'y ai appris beaucoup de choses, aussi bien humainement qu'artistiquement, en fait.
Alors, commençons par humainement.
Bien, vous savez, écrire de la musique, c'est quand même extrêmement solitaire. On est dans son coin et on a quand même pas mal l'impression d'être coupé de la société, dans la mesure où la musique symphonique actuelle, on ne peut pas dire qu'elle ait un retentissement dans la société énorme. Alors qu'au XIXe siècle, l'opéra, par exemple, c'était comme le roman. Ça avait une force politique. Verdi est un des acteurs de l'unité italienne. Il avait vraiment sa place dans la société. Nous, on ignore parfois même jusqu'à notre métier. J'ai une dame quand même cultivée, professeure, qui était sidérée en apprenant que j'écrivais de la musique pour des orchestres. Mais elle me dit, vous écrivez des symphonies avec du papier à musique comme Beethoven. Je lui dis, oui, en gros, ça, le métier n'a pas tellement changé depuis. Et elle pensait que c'était un métier disparu. Elle voyait le compositeur contemporain comme derrière des machines faisant de l'électronique, ça oui. Ou alors le compositeur de variété, mais qu'on écrive pour un orchestre ou pour un pianiste, ou pour, ça la sidérait. Et c'était pas une dame inculte. Donc je me suis dit, il y a du boulot. Et cette coupure, quand même, qu'il faut bien reconnaître avec la société, quelquefois, c'est pesant, dans la mesure où, les jours où on se lève du mauvais pied, on se dit un peu à quoi bon, quoi. À quoi ça sert, pour qui on écrit, si c'est pour quelques, quelques privilégiés, les quelques personnes assez peu nombreuses qui sont fidèles au concert de musique contemporaine. Il y a une espèce de... Il y a un côté vain qui vous saisit à la gorge. Et là, quand on se trouve confronté à ce monde, qui est le monde de l'incarcération, de ces longues peines, il y a une sorte de réalité sociale qui vous saute dessus, qui vous prend à la gorge. On n'y échappe pas et ça a été vraiment très salutaire, en fait, pour moi. C'est la question, quand j'ai écrit sur les poèmes de ces détenus, n'était plus de savoir est-ce que c'est quelque chose de nouveau, est-ce que ça renouvelle le langage musical, est-ce que, enfin, Dieu sait quoi, ça me paraissait des questions absolument vaines. La question pour moi était d'essayer de traduire de la façon la plus juste possible, avec mon langage musical, ce que ressentaient ces hommes, ce qu'ils avaient exprimé dans leurs poèmes. Vous voyez, c'est une façon tout à fait différente de voir les choses.
C'était un défi assez ambitieux de faire se rencontrer des hommes emprisonnés avec un compositeur de musique contemporaine, une musique quand même, comme vous dites, écoutée par un petit nombre de gens. Donc c'était des univers au départ lointains.
Voilà, mais très lointains, mais c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu, en fait. C'est vrai qu'aucun d'entre eux n'était musicien et pratiquement aucun d'entre eux, sauf un que j'ai rencontré qui avait fait plusieurs années de conservatoire, il connaissait la musique à travers le rap, le hip-hop, le rock, mais n'avait pas de... En tout cas, aucun d'entre eux n'était vraiment musicien. C'est ce choc qui a été libérateur, en fait. Ça a été très étrange, parce que j'ai été inspiré par leurs poèmes, évidemment, mais presque plus encore par leur personne, leur personnalité. Je les ai tous rencontrés, bien sûr. Et c'est souvent ce que je percevais d'eux, c'est extrêmement subjectif et revendiqué comme tel, c'est ce que je ressentais d'eux qui m'a donné des idées. Par exemple, il y en a un, j'ai entendu le son d'un harmonica en le voyant, en l'entendant parler, ce côté un peu nasillard, évidemment ça renvoie à la prison, mais j'ai eu un son d'harmonica dans la tête. Donc j'ai mis un harmonica dans le petit morceau que j'ai consacré à son morceau. Un autre m'a parlé du Japon, ça m'a fait penser à un film de Kurosawa. Et en fait, j'ai écrit mon morceau à partir d'une petite chanson qu'on entend dans un film Kurosawa. Enfin, j'ai vraiment réagi à l'instinct, en fait. Et c'était une manière de travailler qui n'était pas du tout la mienne, parce qu'en général, je me suis pratiquement tout le temps, à part Rainer Müller, j'ai écrit sur des textes de poètes morts. Le seul que j'ai rencontré, c'est Rainer Müller. Mais autrement, avant les détenus de Clairvaux, non. Et c'est vrai que c'est très différent d'écrire sur un texte que vous êtes approprié, qui a été écrit il y a 150 ans. C'est pas la même chose que ce texte qui n'était... Ce sont pas des textes d'écrivains, mais ce sont des textes qui parlent d'un quotidien de façon parfois maladroite, mais tellement sincère, tellement... Il y a une espèce d'urgence à écrire, c'est leur évasion, c'est ce qui permet de pousser les quatre murs de leur cellule. Donc là aussi, on oublie les questions de style, les questions de grammaire, les questions de la question n'est pas là. Il y a autre chose derrière, sans doute de plus important, de plus vivant, de plus émouvant, de plus. Et donc ça a influencé ma musique de cette façon. C'est que j'ai voulu moi aussi que ça soit essayer d'aller à l'essentiel et non pas des questions de langage.
Et ces œuvres ont été jouées du coup dans l'abbaye de Clairvaux.
Alors, elles ont été jouées dans l'abbaye, mais pas dans la prison, bien que l'abbaye et la prison se touchent. Et de loin, on ne sait pas ce qu'est la prison et ce qu'est l'abbaye. L'entrée de la prison, par exemple, est un... toute la cour, c'est du XVIIe siècle. Ce sont des beaux bâtiments un peu décrépits maintenant. Et ensuite, on arrive dans la prison qui est tout à fait moderne.
Qui date de 1970.
C'est ça, qui date de 70. Tout ça est dans la même enceinte de ce petit village qui est minuscule. C'est tout petit, Clairvaux. Et de loin, vous voyez cette enceinte et vous voyez, vous avez des miradors au milieu des bâtiments anciens, et des murs et des barbelés, tout ça s'interpénètre. C'est très étrange. C'est un lieu très fort, dont on sort pas indemne. J'ai l'impression, c'est un lieu obsédant.
Et pour ces œuvres, vous avez choisi une orchestration en chœur avec quelques instruments.
Alors c'était un peu le principe établi par Anne-Marie, enfin par Thierry Machuel et par Anne-Marie Salé, qui était que ces chants ne soient pas confiés à une voix seule ou avec un piano ou un petit orchestre, mais que ça soit sous une forme chorale, des chœurs de chambre. Donc toutes les pièces que j'ai écrites sont effectivement pour chœur de chambre, auxquelles j'ai adjoint, dans tous les cas, un instrument. Parce que j'aime bien confronter un instrument à un ensemble vocal. Je trouve qu'il y a un rapport qui se crée, une dynamique qui se crée, un jeu possible d'opposition. Ça peut dramatiser quelquefois un peu l'œuvre. Donc la première que j'ai écrite s'appelle Instant Limite. Il y a quelques interventions instrumentales, mais assez minimes. Et ils ont écrit des poèmes très courts. Ça, c'est moi qui leur ai demandé, faites des haïkus. Ça a été difficile pour eux parce que certains avaient vraiment besoin de s'épancher et écrire. Pour eux, il y en a qui a écrit 3 pages, 4 pages. Mais j'ai dit non, non, il faut essayer de résumer à l'essentiel, à 3, 4 vers, comme dans les petits poèmes japonais, et d'aller à l'essentiel. Donc leur imposant cette restriction, cette limite, je me suis dit, il faut que j'en fasse autant, il n'y a pas de raison. Donc j'ai écrit chacun de ces petits morceaux sur leur poème, ils étaient 11. Je les ai écrits sur 3, 4 notes, 5 notes au maximum, ce qui est une façon de restreindre sa palette de couleurs, si vous voulez. Alors, il y en a un qui est écrit sur Do, Ré, Mi, Sol, par exemple. Il n'y a pas de Fa, il n'y a pas de La, il n'y a pas de Si bémol, il n'y a pas de Fa, etc. Et ça aussi, ça a été un exercice intéressant parce que cette limitation me permettait par ailleurs, tout en gardant la cohérence d'ensemble, ça me permettait de varier le plus possible les formes et les styles. Alors, ce sont des morceaux qui ont des styles très différents parce que dictés, toujours de façon très subjective, par l'impression que me donnait chacun de ces hommes. Bien, Grand Black qui est arrivé, Nemo, qui était un colosse, mais avec un air d'enfant, vraiment un sourire d'enfant, un air de... Et je ne sais pas pourquoi il m'a fait penser vraiment à un enfant, une berceuse, et j'ai écrit une berceuse, donc sur Et alors, par un hasard extraordinaire, lui aussi a écrit une berceuse. C'est une berceuse pour les ballons. C'est un très joli poème que j'ai un peu coupé parce que lui, c'est un de ceux qui n'arrivait pas à faire court. Comme disait la marquise de Sévigné, excusez-moi d'avoir été si long, etc. Je n'ai pas eu le temps de faire court. Et donc, lui a fait long. Mais c'est une berceuse pour les ballons qui se retrouvent prisonniers des barbelés. Quand ils jouent au foot dans la cour, quelquefois, il y a un ballon qui part. Donc on voit effectivement le long de la cour de promenade des ballons qui sont là pour sans doute pour l'éternité. Puis il y en a fatalement qui m'ont moins inspiré que d'autres, des contacts qui n'ont pas vraiment eu lieu avec certains des détenus. C'est absolument normal comme dans la vie, quoi. Il y en a un pour qui j'ai éprouvé une sympathie immédiate, c'est celui qui se passionnait pour le Japon. Et puis d'autres avec qui il m'a été plus difficile, en fait, de mettre en musique leurs poèmes parce que je ne savais pas trop quoi en faire. La grande difficulté pour moi, au départ, c'était d'écrire sur des poèmes imposés. C'est-à-dire, d'habitude, je choisis mes textes. Là, je ne pouvais pas. Le principe était vraiment de mettre en musique tous les textes. Et cette expérience m'ayant beaucoup plu, ben, je l'ai poursuivie pendant plusieurs années. En fait.
Et comment ces hommes, les auteurs des textes, ont-ils réagi à votre musique ?
Alors, c'était très... Je pense qu'ils étaient tous émus de participer à une œuvre d'art. C'est-à-dire que ça change complètement pour eux, ça changeait le regard qu'on avait sur eux, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des gardiens, vis-à-vis de... entre eux. Il y avait un sentiment de fierté, oui, on a pu faire ça. J'ai pu écrire ce poème, moi qui... Parce que certains savent... La dernière année, il y en avait un ou deux qui n'étaient pas analphabètes, mais presque. Donc c'était pour eux un acte rare, difficile, enfin, d'écrire. Mais aucun de ces poèmes ne m'a laissé indifférent, en fait. Aucun. Même, il y en a que j'ai préféré à d'autres, mais j'ai trouvé dans tous, à cause de la situation dans laquelle ils se trouvaient, j'ai trouvé dans tous une force, quelque chose de, oui, d'inspirant, en fait.
Et ce concert a été enregistré, ça a donné lieu, enfin je ne sais pas si c'était le concert, mais en tout cas ces textes mis en musique existent sur le CD Instant Limite.
Oui, alors ça a été, cette œuvre-là a été gravée par l'ensemble Aïdes, c'est l'enregistrement du concert. L'œuvre que j'ai écrite l'année d'après, qui s'appelle Métamorphose, qui était pour violoncelle et chœur, a aussi été enregistrée.
Et Métamorphose, c'était le thème de l'atelier suivant.
Voilà, c'était le thème de l'atelier suivant. Donc il y a sept détenus qui ont écrit sur ce thème. Alors, comme ils n'ont pas le droit d'aller dans l'abbaye qui est pourtant toute proche, mais certains n'ont vraiment pas du tout le droit de sortir. Il y en a un ou deux qui ont eu l'autorisation. On filmait et enregistrait le concert et on le projetait quelques semaines après dans un couloir.
De la prison.
De la prison. Et avant ça aussi, ils ont eu une sorte d'avant-goût, c'est-à-dire qu'il y a quatre chanteurs qui sont venus avant le concert pour leur faire entendre ce qu'ils pouvaient des morceaux, parce que moi j'avais écrit pour 12 voix, donc là ils n'étaient que 4, mais enfin ça leur donnait un petit peu une idée. Donc il y a eu des moments d'échange comme ça, alors très, très variés, certains étaient très, très émus, certains me faisaient des remarques, tiens moi j'aurais pas fini comme ça, j'aurais plutôt... C'était toujours très
spontané,
très, spontané, très, très sympathique.
Et en 2016, Philippe Hersant, le projet d'Anne-Marie Salé a été de faire non seulement un atelier d'écriture, mais en plus que les détenus chantent eux-mêmes. Et vous avez encore joué le jeu.
Là, ça a été le défi quand même le plus compliqué, qui était effectivement de les faire participer eux-mêmes à leur création. Alors, pas physiquement, puisque toujours le même problème, ils n'ont pas le droit de sortir, mais en film. C'est-à-dire qu'on... On les a enregistrés et c'était assez beau d'ailleurs. Il y avait les chanteurs professionnels qui étaient sur scène, les chanteurs du chœur Spirito, et puis il y avait un écran, enfin c'était pas un écran, je ne sais pas quel est le terme exact, où on voyait ces hommes qu'on avait filmés à la prison réciter des poèmes et chanter.
Et ça, c'est vrai, ça devait être extrêmement compliqué, difficile pour ces hommes de chanter. C'est pas donné. Enfin, c'est une aventure compliquée de trouver sa voix en chantant.
Le premier atelier, je me dis, c'est pas gagné, parce que simplement d'oser proférer un son. D'ailleurs, il y a un film qui a été tourné sur cette expérience, s'appelle Revenant, qui a tourné donc Julien Salé, le fils d'Anne-Marie Salé. Et où ils expliquent ça très bien, c'est que bah, tous les enfants chantent spontanément, ils n'ont pas de difficultés, mais dans le monde de la prison surtout, chanter c'est presque comme se mettre à nu, enfin, y a dévoiler une faiblesse. Et donc le premier atelier dirigé par Nicole Corti, les sons ne sortaient pas, ou alors suivi d'un rire gêné. Et elle les a progressivement habitués à proférer un son, à chanter, tout en disant ben, peu importe que vous chantiez juste ou faux, mais et c'est venu assez rapidement. J'étais quand même sidéré. Cela dit, moi ma mission était presque impossible parce qu'il fallait faire chanter en même temps les détenus et les chanteurs professionnels, et je me suis dit ça va être tellement au détriment des détenus que c'est vraiment pas leur rendre service. Donc il faut envisager les choses exactement à l'inverse. C'est-à-dire voir ce qu'eux peuvent apporter par rapport aux chanteurs professionnels. C'est-à-dire l'émotion de leur voix brute, pas travaillée, fausse, mais avec quelque chose que n'auront pas les chanteurs professionnels, qui eux, c'est leur métier. Et donc ça, tout s'est un peu libéré le jour où je leur ai demandé à chacun d'entre eux de penser à une chanson de leur enfance ou quelque chose qui était important pour eux. Et là, j'ai eu la chance, en plus, qu'il y avait des détenus d'origine diverse. Il y avait un Albanais, il y avait un Marocain, un Tunisien, un Gitan. Et alors, le premier qui s'est lancé, c'est l'Albanais, qui jusque-là montrait pas des aptitudes vocales formidables. Il n'arrivait pas à tenir un son stable. Il avait de la voix, c'est une voix puissante, mais je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui ? Et il a chanté une chanson en albanais, c'était absolument sidérant, parce que c'était brusquement, lui qui était mal habile dans l'utilisation de sa voix, là il faisait quelque chose qu'aucun des chanteurs professionnels n'aurait pu faire, c'est-à-dire il y avait une tradition, déjà il y a un parfum de Balkan qui est entré dans la salle, et puis ce vibrato très particulier des paysans albanais, enfin quelque chose qui... Et je me dis, là, je tiens le bon bout, parce que effectivement, même les voix des chanteurs professionnels risquent de paraître bien polissées, bien trop pures par rapport à cette force brute, comme ça. Le gitan, alors, a été un cadeau du ciel, parce qu'il a chanté un cantique Il a eu du mal à se souvenir des paroles, parce qu'il chantait ça quand il était petit. Il a chanté d'abord en français, je lui ai dit, essaye de te souvenir en gitan, comme, vraiment comme quand t'étais petit. Et là, c'était un moment étonnant, parce qu'il a, la fois d'après, il avait retrouvé toutes les paroles, et il s'est mis à chanter, avec une belle voix, en plus très émouvante, très, en faisant des gestes comme s'il avait 10 ans. J'ai cru voir un enfant de cœur. Et c'était, mais extraordinairement émouvant. Il n'a jamais pu refaire ses gestes, d'ailleurs. Ça lui est venu spontanément. Et bon, vous voyez cet homme qui est détenu depuis je ne sais pas combien de temps, qui a fait je ne sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Mais brusquement, retrouver une espèce d'innocence, de fraîcheur de l'enfance.
Et on touchait quelque chose d'essentiel de la musique et de charrier l'émotion.
Exactement, exactement. Et donc j'ai évidemment gardé ce chant qui émeut tous les gens qui l'entendent. C'est ça qui est extraordinaire. Il m'a dit, il l'a chanté à sa femme au téléphone. Il m'a dit, je me suis souvenu d'un chant, etc. Il m'a dit que sa femme était en larmes à la fin. Bon. Et pendant le concert aussi, voilà, la gambiste, la violiste qui jouait, Christine Plubeau, là, qui jouait dans le concert, à un moment, je l'ai vue baisser la tête. Elle m'a dit, mais c'est tellement émouvant, ce qui fait tellement... Ça se secoue quelque chose de tellement profond. Et là, c'était vraiment les deux expériences les plus formidables avec l'Albanais et le Gitan. Un peu plus difficile avec d'autres qui se sont moins prêtés au jeu. Mais je pense que dans tous les cas, la force, la parole, même le Corse qui chantait très faux, vraiment, il n'était pas doué pour le chant. La façon dont il récite son texte et dont il entonne un chant corse, a, voilà, quelque chose de très fort. Et alors en contrepoint, j'ai utilisé les voix des professionnels qui font plutôt référence à l'aspect abbaye de Clairvaux, c'est-à-dire ils font des variations sur une mélodie grégorienne sur le thème de la résurrection. Et je trouvais que ça rendait bien à la fois les deux univers de Clairvaux, qui est l'univers monastique immémorial,
et la claustration volontaire.
Voilà, la claustration volontaire, cette recherche de pureté, c'est vous, c'est bon. Et puis ce document presque brut qui était la voix des détenus.
Et on peut voir tout ça dans ce film de Julien Salé,
voilà,
Revenant. Un documentaire qui va être diffusé sur France 3.
Sur France 3.
Qu'on pourra voir sur Internet, en fait. Et puis peut-être dans des festivals.
Oui, je le souhaite.
Et Philippe Hersant, Clairvaux, ça a été pour vous comme un tournant aussi dans la création.
Il se trouve, en plus, cette œuvre a eu une suite tout à fait inattendue, venue de Russie, de l'Oural. Parce qu'un chef d'orchestre, Théodore Kurensis, qui est bon, un formidable chef d'orchestre, un des plus grands actuellement, qui est directeur de l'Opéra de Perm, a entendu, je ne sais comment, ce disque d'Instant Limite. Et il s'intéressait à la prison, il a fait lui-même des concerts en prison à Perm. Et il voulait que son chœur, qui est peut-être le plus beau chœur qui existe actuellement dans le monde, qui est le chœur Musica Eterna, il voulait qu'il y ait une grande œuvre contemporaine, une création, donc pour qu'il mette en valeur ce chœur. Donc j'ai reçu un beau jour un mail par l'intermédiaire de mon site internet, de Kurensis, me demandant si ça m'intéressait de poursuivre cette expérience, sachant que l'œuvre ne dure que 15 minutes, il voulait que j'en fasse une heure et quart, une heure et demie, enfin une œuvre d'une soirée entière. J'ai évidemment pas tardé à lui dire oui. Et donc j'ai prolongé cette expérience alors avec des textes russes, puisque l'œuvre a été créée à Perm il y a 2 ans.
Mandelstam,
des poèmes, notamment. Enfin,
poèmes du Goulag.
Des poèmes du Goulag. Et aussi, malheureusement, c'est presque un genre littéraire en Russie, le poème de détenu. Mais aussi des poèmes qui ont été recueillis lors d'expériences un peu similaires à celles de Clairvaux. Donc il y a des anonymes aussi, ou des gens totalement inconnus, à qui les directeurs de prison demandaient d'écrire des poèmes, et ils étaient publiés dans des revues. Donc ils m'ont fourni plusieurs de ces revues. J'ai la chance d'avoir un agent, Catherine Terrier, qui parle russe couramment. Elle m'a aidé dans cette expérience, sinon je ne sais pas comment j'y serais arrivé. Et donc j'ai écrit une œuvre d'une heure et demie à peu près, qui était une suite de poèmes sur des textes de prisonniers français ou russes. Et en tirant parti de l'expérience de Clairvaux, c'est-à-dire que en essayant de me limiter d'un certain côté, c'est-à-dire que tous ces morceaux que j'ai écrits, ou presque tous, ont en commun une petite cellule musicale qui est reproduite de façon assez masquée, mais elle est là, je me suis imposé voilà, que ce soit présent un peu partout. Ça donne une cohérence au tout, et en même temps, ça m'a permis d'avoir une liberté de style absolument totale. C'est-à-dire que dans Tristia, qui est le nom de cette œuvre, il y a une valse, il y a une marche, il y a une vraie chanson de bagnard, presque entre guillemets. Il y a des choses plutôt élevées, enfin des textes sublimes, il y a des textes orduriers. Et ça, c'est un peu l'expérience d'Instant Limite qui m'a donné ça, c'est qu'on peut arriver à ce qu'une œuvre soit cohérente au-delà de la profusion de styles différents.
Philippe Hersant, pour terminer cette série d'entretiens, déjà merci beaucoup. Aujourd'hui, quel serait votre souhait en musique? Sur quoi travaillez-vous? Quel est votre prochain défi?
Le prochain défi, c'est de terminer à temps une œuvre dont je devrais avoir écrit le tiers et dont je n'ai écrit que quelques secondes, qui est un double concerto pour violon, violoncelle et orchestre, qui va être créé en novembre prochain à Paris, en co-commande avec l'orchestre de Pau et l'orchestre de Metz. J'aimerais bien écrire un autre opéra. Bon, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que c'est assez vague. Et puis bon, il y a beaucoup de projets pour un an ou deux.
Merci beaucoup Philippe Hersant.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre d'Élise Gruau avec Philippe Hersant. À voix nue, réalisation Ghislaine David, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.